Pour commencer, je voudrais rappeler que le diabète est une maladie chronique qui est fréquente en France. On compte à peu près 2,5 millions de personnes diabétiques traitées. C'est une maladie qui a un retentissement sévère de par la gravité de ses complications, dont notamment les amputations. Au niveau de la méthodologie, donc, on a sélectionné l'ensemble des séjours avec un acte d'amputation du membre inférieur à partir des bases PMSI-MCO de 2004 à 2007 pour la métropole. On a établi, donc, pour le diagnostic de diabète, en fait, on a construit une base de diabétiques à partir de la recherche d'un diagnostic de diabète sur l'ensemble des séjours sur la période de 2004 à 2007, que ce soit pour un séjour pour une amputation ou pour toute autre raison. Et ainsi, donc, pour l'ensemble des personnes amputées, on a regardé à partir du chaînage si cette personne appartenait à la base diabétique. Si c'était le cas, on le considérait comme un diabétique. Pour la recherche des décès, donc c'est pareil, on a balayé l'ensemble des séjours, quelle que soit la cause, sur la période 2004-2007, et on a fait aussi une recherche complémentaire dans les bases SSR 2005-2007. Donc on a analysé de façon indépendante chaque année, donc de 2004 à 2007, et donc je disais, pour la recherche des diagnostics de diabète, on a balayé l'ensemble de la période. De cette façon, on a pu constater que en 2004 et 2005, on avait 16% des séjours avec un acte d'amputation chez une personne diabétique qui ne faisait pas mention d'un diagnostic de diabète lors du séjour. Et ce taux était de 14% en 2006 et 2007. On avait donc sur l'ensemble de la période, on avait donc 85% des séjours avec une amputation chez une personne diabétique qui mentionnait le diagnostic du diabète lors du séjour. 6% ne le mentionnait pas, mais on le retrouvait sur un séjour au cours de la même année. 7% sur une année précédente et 2% sur une année suivante. Donc, en termes de nombre d'actes d'amputation, donc, sur ce graphique, donc, vous avez la courbe orange qui représente les actes chez les personnes diabétiques et la courbe bleue chez les non-diabétiques. Donc, on a pu constater une augmentation du nombre d'actes entre 2004 et 2007 chez les diabétiques. Donc, on avait un petit peu plus de 10 000 actes en 2004 et on a atteint plus de 11 400 actes en 2007. En revanche, chez les non-diabétiques, le nombre d'actes était stable aux alentours de 7500 actes par an. Quand on regarde la proportion d'actes d'amputation chez une personne diabétique, on s'aperçoit que ce taux augmente aussi. En 2004, on avait 58% de l'ensemble des actes d'amputation qui étaient effectués chez une personne diabétique, et ce taux était de 60% en 2007. Maintenant, en termes de patients, parce qu'une personne peut être amputée plusieurs fois au cours d'une même année, donc on voit aussi une augmentation donc, du nombre de patients amputés entre 2004 et 2007. En 2004, on avait à peu près 8500 personnes, et en 2007, on atteint plus de 9200 personnes, alors que chez les non-diabétiques, le nombre de personnes est relativement stable, aux alentours de 6700 par an. Pareil, la proportion de personnes diabétiques parmi les personnes amputées donc augmente aussi. Elle était de 56% en 2004 et elle atteint 58% en 2007. Par contre, en termes d'incidence brute, là on voit qu'il y a une stabilité de la courbe chez les diabétiques ou chez les non-diabétiques. Donc chez les diabétiques, on a une incidence brute aux alentours de 375 pour 100 000 personnes diabétiques par an. Et chez les non-diabétiques, aux alentours de 11 pour 100 000 personnes. Donc, on a calculé une incidence standardisée sur l'âge pour pouvoir comparer les diabétiques aux non-diabétiques. Et on voit qu'on a à peu près une incidence 17 fois supérieure chez les personnes diabétiques que chez les personnes non-diabétiques. Donc, on a fait la même chose, mais par sexe, donc pour comparer les hommes aux femmes. Et on voit donc que chez les personnes diabétiques, on a une incidence de l'amputation du membre inférieur chez les hommes diabétiques qui est deux fois supérieure à celle des femmes, Chez les non-diabétiques, le rapport homme-femme est supérieur, il est de l'ordre de 3. Donc maintenant, au niveau des caractéristiques des personnes amputées, donc chez les personnes diabétiques, on a à peu près 71% d'hommes, et donc c'est relativement stable au cours du temps. L'âge moyen augmente d'un an à peu près entre 2004 et 2007. En 2007, on a une moyenne chez les personnes diabétiques de 71 ans. Ensuite, on a regardé le niveau d'amputation. Donc, chez les personnes diabétiques, on retrouve essentiellement des amputations d'orteils, près de 45%. C'est relativement stable au cours du temps. Ensuite, on a 20% d'amputations de pieds, de jambes et de cuisses. Alors que chez les non-diabétiques, donc, on a aussi une forte proportion d'amputations d'orteils, environ 40%, mais également de cuisses, à peu près 33% d'amputations de cuisses. Voilà. Donc ensuite, on s'est intéressé au devenir des personnes amputées. Donc on a pris l'ensemble des personnes diabétiques amputées en 2004, les personnes chaînables, donc il y en avait un tout petit peu plus de 8000, et on a regardé en fait leur devenir sur les 3 années de suivi. Donc déjà dès 2004, donc l'année de leur amputation, près de 12% sont décédés à l'hôpital. Que ce soit au cours du séjour pour amputation ou au cours d'un autre séjour pour une autre raison. Et à 3 ans, donc, ce taux atteint déjà 31%. Ensuite, au niveau des réamputations, donc, près de 30% étaient déjà réamputés en 2005 et donc 35% étaient réamputés en 2007. Et ensuite, quand on cumule à la fois décès hospitaliers ou réamputation, on voit qu'à 3 ans, donc en 2007, on a déjà 56% donc de personnes décédées à l'hôpital ou réamputées. Donc on a identifié quelques limites à notre étude. Déjà, on a une proportion importante de séjours sans numéro de patients jusqu'en 2006, de l'ordre de 5 à 7%. Donc, ce qui crée une augmentation artificielle du nombre de patients amputés et de l'incidence. Mais par contre, ça n'a pas d'impact sur notre nombre d'actes d'amputation. Ensuite, pour calculer les incidences, donc, il nous a fallu un dénominateur, donc l'effectif de la population diabétique, qu'on a estimé à partir de la prévalence du diabète traité calculée par l'assurance maladie pour le régime général et extrapolée à la population française. Donc ça, on sait que ça a des limites, notamment ça, on considère pas les personnes non traitées, mais le calcul est fait de la même façon pour chaque année, donc ça n'a pas d'impact sur l'évolution. Ensuite, donc le suivi des patients ne tient pas compte de la mortalité hors hôpital, donc on a essayé de compléter avec le SSR, mais on sait très bien qu'il nous échappe une grande partie des décès. Voilà, donc en discussion, déjà l'apport du PMSI est essentiel parce qu'il nous permet d'estimer l'incidence de l'amputation donc du membre inférieur chez les personnes diabétiques au niveau national et plus circonscrite à un établissement, voire à un département, ce qui a été fait notamment pour la Franche-Comté ou la Réunion à partir des dossiers médicaux. L'apport du chaînage est essentiel dans les analyses concernant le diabète, parce qu'on voit quand même qu'on a pu récupérer 16% des séjours, donc ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, l'apport du SSR nous a permis d'affiner le taux de mortalité. On a quand même récupéré, sur l'ensemble des décès récupérés, 6% étaient issus des bases SSR et 14% en 2005. Et voilà, donc en conclusion, donc on a un taux d'incidence de l'amputation du membre inférieur chez les personnes diabétiques donc stable entre 2004 et 2007, de l'ordre de 375 pour 100 000. On a un nombre d'actes d'amputation et de patients amputés en augmentation depuis 2004, mais qui est certainement plus le reflet de l'augmentation de la prévalence du diabète qu'une véritable augmentation de la fréquence de la complication. Et puis enfin, donc on a un taux de mortalité hospitalière ou de réamputation qui est relativement élevé, donc de 56% à 3 ans. Voilà, je vous remercie.
Oui, bonjour. Donc là, je suis là parce que l'ATIH a fait un certain nombre de traitements pour la DGOS, mais la communication, bien une communication de la DGOS, et notamment du bureau PF2 que dirige Valérie Salomon, avec Laetitia May comme conseiller technique, bureau en charge de la qualité et de la sécurité des soins, et de ce qui tourne notamment autour des infections nosocomiales. Le sujet qui nous a réunis à TIH et DGOS sur ce, peut conduire dans certains cas de figure à l'amputation, pour prendre la suite de l'intervention précédente, comme un exemple fameux et bien connu dans la presse, peut en témoigner. Mais l'idée était que dans la problématique de la DGOS autour de l'amélioration de la prise en charge des infections ostéo-articulaires graves, le PMSI a rendu quelques services, et c'est ce dont on voulait témoigner. Cette question des infections ostéo-articulaires graves est un enjeu majeur de santé publique. On pose en France quand même un très grand nombre de prothèses maintenant chaque année. La hanche depuis très longtemps, mais le genou est devenu quelque chose qui est courant maintenant. Et on pourrait parler de l'épaule ou de la cheville qui commence à ne plus être tout à fait discrète en termes de volume annuel. Et là-dedans, il y a toujours quelques cas d'infection. Et parmi ces cas d'infection, on peut avoir des infections graves et complexes dont le traitement présente des difficultés et qui pose de très très sérieux problèmes aux patients. Donc, la DGOS avait un groupe de travail avec les experts infectiologues et orthopédistes. Il y a un programme de lutte contre les infections nosocomiales où cette question des infections osseo-articulaires graves était une des mesures mentionnées prioritaires. Il y avait un travail non négligeable sous une supervision attentive et pressante d'une association de patients que tous vous devez connaître, le lien, j'imagine, avec l'amplification médiatique du cas Depardieu derrière. Bien, le comité technique des infections nosocomiales avait défini ça comme un critère, et donc il y a eu un travail d'identification avec la volonté d'avoir une organisation avec un maillage. Il y a eu une circulaire en juin 2008 qui demandait aux ARH de désigner des centres de référence et des centres associés, avec un centre de référence par interrégion et un centre associé au minimum par région. Le groupe de travail avait commencé à identifier un certain nombre de codes, et à ce moment-là, donc la DGOS nous a sollicité, et comme expertise technique sur les aspects PMSI et pour les exploitations statistiques. Donc, le souhait pour identifier les établissements qui allaient être centres de référence pour les infections ostéo-articulaires graves, il fallait qu'il y ait une activité suffisante qui fasse parmi ceux qui ont une réelle activité importante dans ce domaine-là, et il fallait pouvoir identifier et quantifier cette activité. Et puis ensuite, il fallait qu'il y ait une vraie filière de prise en charge avec une organisation interne multidisciplinaire et déjà un rôle de recours par rapport à d'autres centres. Bien. Donc, à ce moment-là, en 2008, on a traité les données de 2007. Et qu'est-ce qu'on observait? En prenant la liste de codes d'infection osteoarticulaire qui avait été constituée avec les experts, on voit que c'est majoritairement chirurgical quand c'est en diagnostic principal, un peu moins quand c'est en diagnostic associé, et que c'est majoritairement l'infection ostéo-articulaire est codée plus souvent en diagnostic principal qu'en diagnostic associé, parce que en général l'identification de l'infection se fait rarement au cours de la pose initiale, et donc c'est plutôt des hospitalisations secondaires. Avec un diagnostic principal, le patient vient pour son infection. Mais vous voyez que la partie chirurgicale n'est pas, elle est majoritaire mais pas complètement prépondérante, et que le diagnostic associé, ce sont des traitements longs, il y a parfois des ablations matérielles programmées sur des séjours courts, il y a un certain nombre de cas de figure où tout n'est pas en diagnostic principal en chirurgie. Pour autant, on s'est quand même focalisé sur ces éléments-là. Pour mémoire publique et privée, là, clairement, Hein, on est dans des répartitions où plus des trois quarts des patients sont dans des établissements publics ou PSPH, parce que un des établissements phares connus en France, en région parisienne, n'est pas un établissement public au sens strict, mais bien PSPH. Et vous voyez que dans ces cas-là, hein, les choses sont, une fois encore, majoritairement sur les diagnostics principaux. Donc ça, c'était le constat. Hein, où étaient ces patients en termes de groupage PMSI? On était en V10, bien entendu, en 2007. Hein, en CMD8, très majoritairement. Et en 24, alors si on avait pris la 8 de la 24, hein, bien entendu, dans la 24, il n'y avait pas que de la 8, si j'ose dire, mais majoritairement. Hein, et puis un petit peu en 21, et après, c'était un peu plus diffus. On a regardé ce que ça donnait sur l'étape, parce qu'on était en 2008 en préparation de la V11, on n'avait pas encore créé le GHM 08C56, et donc on a regardé à ce moment-là, avant de poursuivre les travaux, quelles étaient les racines chirurgicales dans lesquelles on avait des diagnostics principaux ou des diagnostics associés. Alors là, c'est d'infection osteoarticulaire grave, enfin d'infection osteoarticulaire, parce que cette notion de grave n'était pas bien cadrée à cette étape-là. Hein, on voit que on a notamment des interventions sur le pied en volume, hein, mais que si on regarde en proportion, on retrouve les amputations dont on parlait tout à l'heure, hein, où près de 30% des amputations le sont pour des DP d'infection ostéo-articulaire grave, des biopsies ostéo-articulaires, hein, et bien entendu des reprises de prothèses ou des arthroscopies de genoux par exemple. Et en passant, on voit aussi qu'on a des durées moyennes de séjour dans la colonne bleue, c'est celles qui ont une IOA en DP, hein, et dans la colonne verte, celles qui ont un autre DP qui ne fait pas partie, et vous voyez qu'en général, hein, on a potentiellement des écarts de durée de séjour non négligeables, ce qui a argumenté le fait, hein, ce que revendiquaient aussi les experts, des cliniciens, en disant mais il faut qu'on soit mieux valorisé pour ces prises en charge-là, parce qu'elles sont plus longues dans les GHM dans lesquels elles tombent. Donc, c'était pendant les travaux de la V11, hein, et alors, les travaux de la V11, déjà, avaient conduit à un affinement de la CMD8, hein, où on était beaucoup plus précis, on augmentait le nombre de racines existantes dans la CMD8. Deuxième chose, il s'avère que les codes de la liste des infections ostéo-articulaires qui étaient utilisés dans ce travail-là étaient pour la grande majorité, en diagnostic associé, de niveau 3 ou 4. Hein, les arthrites, les ostéomyélites, quand elles sont reportées dans les résumés, hein, sont très fréquemment avec des durées de séjour augmentées, et donc ils ont été qualifiés en niveau 3 ou 4 comme CMA. On a, dans les GHM médicaux, indépendamment du reste, on avait déjà deux racines, qui étaient des racines cibles, pour lesquelles quasiment tous les diagnostics d'entrée étaient des diagnostics de la liste. Hein, c'était les 08M31 et 08M32. On a vu tout à l'heure quand même qu'il y avait un nombre de séjours non négligeables, qui étaient des séjours médicaux. On fait des traitements antibiothérapiques, on n'est pas pour nettoyer et mettre les articulations ou les os en rémission de leur infection avant d'intervenir. Donc le choix qui a été fait à ce moment-là, hein, qui était une volonté notamment politique du groupe de travail pour une identification, pour une meilleure valorisation, a été, ils nous ont demandé de créer une racine, parce qu'il y avait plusieurs manières de le traiter. Hein. Soit on disait il faut trouver une technique de majoration dans la classification ou dans la facturation, ou alors on fait le choix, c'est le choix qui a été fait, hein, de regrouper toutes les interventions pour des DP d'infection osteo-articulaire dans un même GHM. Hein, alors que, vous voyez, que je vous rappelle la diapo précédente, c'est qu'elles étaient éclatées, hein, dans beaucoup de GHM différentes. Donc là, il y a eu un choix de regroupement. Alors forcément, ça présente un certain nombre de limites, mais c'était aussi un choix de lisibilité et de vision. Ça améliore l'homogénéité des GHM dans lesquels on les sort. Hein. Par contre, ça crée un GHM qui n'est pas complètement homogène. Il est homogène sur le plan du DP, mais pas forcément sur le plan des localisations et des interventions. Donc on a créé ce GHM-là, hein, et en plus, les centres de référence donc, ont été reconnus avec, pour les centres de référence, d'une part, une MIG, hein, au sens de, vous avez une activité de coordination, vous avez une activité d'enseignement, etc., pour une interrégion auprès des autres établissements. Et donc, il y a une MIG. Et puis, pour la prise en charge, comme on considère que ce sont des centres de recours et d'excellence, ça ne veut pas à la première année, il a été décidé que pour les centres de référence reconnus, pas les centres associés, hein, c'est aussi ça pour concentrer un petit peu les moyens de la première année, qu'il y aurait une majoration avec la création d'une UM spécialisée permettant de déclencher la majoration. Bien. Si on regarde ce qui s'est passé en 2009, hein, et comment les gens se sont adaptés, comment ça se passe. Donc, pour les centres reconnus, hein, ils représentent sur le GHM 08C56, je n'ai pas pris la totalité des cas de figure en DP, en DAS, médicaux ou non médicaux, on a concentré l'analyse cette fois-ci sur l'activité chirurgicale, hein, ça n'est pas toute l'activité, mais c'est le cœur du sujet. Les 8 centres, hein, 8 établissements, c'est 22% de l'activité du 08C56. Et dans ces centres-là, les patients pris en charge dans l'UM30, hein, d'unité reconnue, c'est à peu près la moitié, un peu plus de la moitié. Ça représente 12% de l'activité nationale. Hein, en 9 mois, presque 1300 patients. Hein, sachant que pour la France entière, on est autour de 10 000 patients sur 9 mois. Hein, et donc, on sera autour de 14 000 dans ce qu'on a regardé sur une année complète. Bien. Les âges moyens, hein, les durées de séjour, et vous voyez que les centres reconnus ont une durée de séjour plus importante. C'est des centres qui ont obligation d'avoir, hein, une réunion pluridisciplinaire, d'avoir une coordination infectiologue, orthopédiste, etc., etc. Hein, et donc, des patients qui sont assez jeunes, hein, 53 ans, ça n'est pas si vieux que ça par rapport à ce qu'on a pu voir tout à l'heure sur la diabétique, hein, mais des durées de séjour conséquentes. En passant, si on compare ces centres, hein, on voit que les volumes de 08C56 sont à peu près cohérents entre les principaux centres, AP mis à part, bien entendu, sachant que si on regarde ce qu'il en est de l'UM30, à l'AP, c'est juste le service du professeur Lorta Jacob à Garches qui est centre de référence. Hein, et donc, ça n'est pas la totalité de l'activité de la chirurgie osteo-articulaire, d'infection osteo-articulaire, pardon, qui relève de la majoration, hein, et du passage en centre de référence. Hein, c'est presque 10% seulement. Hein, mais on a des proportions de passage en UM30 très variables d'un établissement à l'autre. On voit aussi qu'on a des populations probablement qui ne sont pas les mêmes, hein, des durées de séjour et des âges qui ne sont pas strictement les mêmes d'un centre à l'autre, hein, donc cette activité n'est pas encore complètement uniforme entre les centres. On voit bien qu'il peut y avoir des variations de localisation, du nombre d'hospitalisations, les choses ne sont pas forcément les mêmes partout. Bien, donc ce qui est apparu après discussion avec les centres à partir des statistiques qui avaient été faites, c'est qu'il y avait un problème de définition de l'UM30 qui n'était pas conçu de la même manière partout. Certains, se considérant comme puristes, disaient que ça devait être une unité géographique, c'est-à-dire une unité à l'intérieur d'un service d'orthopédie ou d'infectiologie qui prend en charge que ces malades-là et donc qui a vocation à avoir les malades les plus lourds concentrés au même endroit. Et d'autres qui disaient, oui, mais comme c'est une majoration T2A, comme il y a des sous à prendre, il faut que la totalité des endroits où un patient pouvant avoir une infection ostéo-articulaire soit validant pour l'UM30 parce qu'il ne faut pas qu'on perde d'argent. Il y avait des gens qui avaient une logique de prise en charge et d'autres qui avaient une logique de facturation. Hein, et donc, ça pose encore quelques difficultés. Ce périmètre-là va devoir être redéfini. Hein, donc, ça, c'était le principal problème. Les professionnels estiment, en tous les cas, pour une partie d'entre eux, que les niveaux de sévérité qu'on a introduits sont pas la logique du niveau de sévérité. Elle est transversale, toute activité confondue. dans la construction des niveaux de sévérité. Et donc eux, ils disent oui, mais pour nos patients, il y a certains critères qui sont pas là-dedans et qui tiennent au fait qu'ils ne sont pas du tout d'accord entre eux sur qu'est-ce que c'est qu'une infection complexe. Certains vous disent il faut que ce soit un patient qui soit en traitement depuis plus d'un an et qui ait eu au moins 3 antibiothérapies différentes avec une infection qui dure depuis plus d'un an. D'autres disent non, c'est pas du tout ça, il suffit que, etc., etc. Les périmètres de ce que c'est que ces infections osteo-articulaires complexes sont pas encore aujourd'hui tout à fait consensuels entre tous les infectiologues et les orthopédistes qui s'y intéressent. Ceci dit, les codes T80 d'infection sur matériel, les codes de résistance aux antibiotiques, je rappelle que normalement, au sens de l'OMS, les codes U de résistance sont des patients qui ont eu le traitement et qui résistent au traitement. Ce n'est pas l'antibiogramme. Alors, comme l'évoquait Marion Mendelssohn, je pense qu'on sera explicite et qu'on va créer des subdivisions. Mais aujourd'hui, faites attention, je pense que si vous utilisez ces codes U et qu'il y a des contrôles et que le patient n'a pas eu le traitement et que c'est juste l'antibiothérapie, je ne suis pas certain qu'on vous les valide. Parce qu'ils sont, ils sont niveau 4. Et donc, si c'est juste une biologie qui sert à changer le traitement, enfin à ne pas prendre un traitement, vous comprenez qu'on considère qu'il n'est pas cliniquement résistant à l'antibiothérapie, au sens où il n'a pas eu le traitement et donc ce n'est pas une allocation. Bien. Donc, autre élément, c'est que normalement, le changement de règle du DP pour la V11 devient cohérent. Le patient ayant une infection connue, il vient pour ce traitement-là, en général, il n'y a pas trop de difficultés. Bien, en passant, un petit rappel sur les tarifs et de voir que les évolutions 2009-2010 ont été favorables. La majoration est une majoration qui est quand même modérée pour les centres de référence, c'est 12%, vous voyez, mais que on a eu une progression des tarifs selon les niveaux entre 8 et 20%, vous voyez. Donc le fait d'avoir regroupé tous ces éléments-là, d'avoir mis en évidence une augmentation de la durée moyenne de séjour et des coûts parce qu'on les a mieux isolés, donc quand on fait l'analyse des tarifs derrière, des coûts derrière, on voit que du coup ça a plutôt une évolution bénéfique sur les tarifs, avec des tarifs qui sont quand même conséquents, puisqu'on est à 4 000 € en niveau 1, c'est déjà pas mal, et à 16 000 € au niveau 4. Et donc si vous avez eu un code de résistance, un code U à l'avant-co par exemple, ou certains codes d'infection sur matériel, vous êtes en niveau 4 assez rapidement. Bien, donc la DGOS poursuit ses travaux, et notamment a le souhait de mettre en place un dossier commun informatisé assez spécifique de ces éléments-là pour des analyses cliniques et pour optimiser la réflexion sur la qualité de la prise en charge. On essaye d'améliorer le consensus sur la définition des notions complexes. Et donc, il n'est pas exclu qu'il n'y ait pas des évolutions à terme sur le 08 et 56. Il y a eu un choix initial de le regrouper pour une simplification de lisibilité. On sait dedans qu'on a des sous-populations assez différentes, que les durées de séjour pour le pied n'ont rien à voir avec les durées de séjour pour la hanche, par exemple. Et donc, ça reste un sujet qui est en cours de discussion et en cours d'étude. Il y aura des évolutions sur ce sujet-là. Et puis, sur le financement, aujourd'hui, on est resté encore pour 2010 avec le tarif majoré uniquement pour les centres de référence, mais l'évolution sera plutôt pour dire, quand on aura un consensus sur la notion de complexe et qu'on sera en capacité de l'identifier dans le résumé PMSI, ce sera plutôt tous les patients complexes, où que soit leur site de prise en charge, parce que la vocation, ce n'est pas d'aspirer tous les patients dans les centres de référence, pas du tout. Les centres de référence sont des centres à vocation plutôt pédagogique pour les autres. Ils n'ont pas vocation à concentrer tous les patients, loin de là. Et donc, l'avenir est plutôt sur une réflexion pour un financement où tous les patients identifiés comme complexes, ayant bénéficié d'une prise en charge pluridisciplinaire avec une RCP, etc., pourront probablement, il reste encore les modalités pratiques à identifier, bénéficier de la majoration. Voilà. Et puis, il y a des projets de recherche épidémiologiques et cliniciens combinés, portés par Bordeaux et Tours notamment, autour d'une analyse, maintenant qu'on a les bases avec les dispositifs médicaux, de faire des cohortes de patients On a quasiment les cohortes exhaustives des patients avec pose de matériel et on peut les suivre pendant plusieurs années pour voir ce qu'il en est en termes de survenue des infections. Je vous remercie.
Bonjour à tous. Je suis ravie de vous rejoindre tout en ayant conscience que je vais faire une présentation peut-être un petit peu exotique, je dirais, puisque dans ce que je vais vous exposer, il n'est pas question de PMSI. En revanche, il y a une continuité certaine avec la présentation que vient de faire Pierre Métral, puisque c'est à nouveau le bureau PF2, qualité et sécurité des soins, qui vient vous entretenir. D'un mot sur le bureau PF2, il s'occupe effectivement de la politique de prévention des infections nosocomiales, mais également des produits de santé, du risque en général, et c'est pour ça qu'il y a une personne chargée de la gestion des risques, entre autres, au sein de l'équipe. Alors je vais vous faire vous donner quelques grandes lignes d'une enquête qui a été faite, d'une étude qui a été faite en 2009 à partir d'une circulaire de la DOS qui date de 2004, qui est la circulaire 176 et qui a été dont le titre est « Mise en place d'un programme de gestion des risques dans les établissements de santé ». Et à ce jour, ce document réglementaire, si on peut dire, avec des précautions, est le seul document qui traite de gestion des risques de manière globale dans les établissements. Et c'est un document à caractère incitatif seulement et non pas contraignant, bien sûr. Les thèmes de cette circulaire de 2004 étaient celui du management des risques, ce qui veut dire prévention et maîtrise des risques, sensibilisation, information et formation des personnels, et aussi évaluation. C'était les trois grands thème que l'on peut ranger sous cette notion de management. La circulaire fixait des objectifs aux établissements, se doter d'un gestionnaire de risque, concevoir un programme de gestion des risques et avoir une méthodologie de traitement des risques. Et une approche était préconisée, à privilégier, c'était celle d'une coordination des moyens et des compétences existants au sein des établissements et intra-établissements. Et là, c'était une mission qui était dévolue aux ARH dans la circulaire, et c'était de promouvoir la mutualisation. C'est une circulaire très courte, elle fait 2 pages, mais elle comporte des annexes très opérationnelles et assez longues, d'une bonne centaine de pages. Donc, fin 2008, il a été estimé nécessaire de faire une évaluation sur l'application de la gestion des risques dans les établissements suite à cette circulaire. Les objectifs de l'étude, c'était de faire un bilan de la mise en œuvre de cette gestion des risques, c'était d'apprécier les dynamiques régionales, d'apprécier l'impact de la circulaire et puis les autres freins ou moteurs qui s'étaient présentés. Au plan de la méthodologie, un copil a été fait avec des représentants des ARH, des DRAS, notamment c'était leur chargé de gestion des risques le plus souvent, avec l'AFSAPS, l'INVS, la DGS, la DRES et des établissements qui ont été notamment testés pour les questionnaires. Voilà. Un appel à candidature a été fait fin 2008, c'est la société Dédale qui est spécialiste à la fois de gestion des risques dans le monde de l'industrie, particulièrement de l'aviation, mais aussi en santé, qui a été retenue. 4 questionnaires ont été élaborés, un pour les établissements de santé, un pour les ARH, un pour les DRAS et un autre pour les autres structures d'appui à la gestion des risques et à la qualité, je dirais, puisque c'est très souvent complètement lié. Les questionnaires le plus important était pour les établissements, 38 questions, pour les autres, c'était un petit peu moins, jusqu'à une vingtaine de questions pour les autres structures d'appui, des questions fermées, dichotomiques oui non, fermées à choix multiples, des questions avec classement par ordre hiérarchique, des champs de commentaires libres aussi. Les ARH ont été sollicités le fin 2008 et il leur a été demandé à leur tour de solliciter les établissements de leur région, publics et privés, établissements de santé seulement, publics et privés, et de solliciter leur DRAS et les autres structures d'appui à la gestion des risques, en tous les cas les structures qu'elles estimaient venir en appui de leur politique régionale, quelle qu'elle soit. Tout ce travail a donné lieu, je le dis tout de suite, à une restitution dans le cadre d'un colloque qui s'est tenu en septembre 2009 au ministère de la Santé, organisé donc par le bureau PF2, qui s'intitulait « Sécurité du patient, état des lieux et perspectives de la gestion des risques en établissement de santé ». Et en fait, aussi bien l'étude, les résultats d'études sous forme complète ou synthétique et l'ensemble du colloque sont mis en ligne sur le site du ministère. Également, il y a une restitution spécifique pour les ARH. Elles ont eu les résultats de leur région avec l'intégralité des verbatim. Donc, l'étude a donné lieu à un taux de réponse qu'on peut considérer comme positif, voire très positif, puisqu'il est de 58%. La participation à l'étude a enregistré des très fortes disparités selon le statut des établissements. On a obtenu donc 1575 réponses. La moitié des établissements privés ont répondu, ça fait 565 réponses, c'est 49% exactement. Pour les PSPH, c'est 25% d'entre eux seulement qui ont répondu, ce qui a donné 360 réponses. Pour les établissements publics, c'est plus bas encore, c'est 18% seulement des établissements publics qui ont participé, ce qui nous a donné 646 réponses. Donc, de manière cohérente, on note une prépondérance des petits établissements parmi les 1575 réponses, d'autant que parmi les établissements publics, ce sont surtout les hôpitaux locaux qui ont répondu. 54% d'entre eux ont répondu au questionnaire, alors que pour les centres hospitaliers, on avait un taux de 17% de réponses, et pour les CHU le même. Néanmoins, on peut considérer que la représentativité est acceptable. Voilà. Juste d'un mot, je ne sais pas si les chiffres sont très visibles. Vous pouvez noter que les données sur les établissements existants et sollicités correspondent aux entités géographiques du FINES. Alors, j'en viens aux résultats. Dans un premier temps, je vais parler des résultats de côté établissement et à la fin, je vous indiquerai les résultats côté région. Alors pour les établissements, au total, je ne donnerai d'ailleurs qu'un aperçu. Beaucoup d'autres aspects peuvent être mis en valeur dans cette étude, mais trois ou quatre thèmes concernant les établissements, donc la stratégie et la politique de gestion des risques. Donc on peut voir quelques chiffres, vous voyez que ça va décrescendo, et bon, je pourrais ajouter, en commençant encore un peu plus haut, que 81% des établissements déclarent avoir inscrit la gestion des risques dans leur projet d'établissement. Et puis, au fil des 4 ou 5 items indiqués, vous voyez que la progression vers des actions concrètes n'est pas achevée pour la très grande majorité des établissements, puisque au total, c'est 26% seulement d'entre eux, c'est-à-dire 404 établissements, qui remplissent tous les critères que donnait la circulaire pour une mise en place effective d'une stratégie, d'une politique de gestion des risques intégrée. Et puis, de manière concordante, je peux vous indiquer que c'est seulement 32% des établissements qui ont établi un véritable plan de communication sur la gestion des risques, alors qu'à peu près tous font des actions de sensibilisation. Deux observations. Donc, on a noté dans l'analyse de l'étude que la tendance à moins formaliser la politique se trouvait dans les établissements de petite taille. C'est pas très surprenant. Et qu'il y avait d'une manière générale plus d'objectifs de sécurité dans les établissements privés que dans les établissements publics. C'est peut-être dû au fait qu'il y a une pratique du management par objectif sans doute plus ancienne et plus courante. Les résultats suivants portent sur l'engagement et l'implication de la direction. En fait, 33% seulement des établissements de santé font référence à la gestion des risques dans les fiches de poste des cadres comme à une mission qui incombe de manière inhérente au cadre, toute fonction de cadre confondue. Et la visibilité de l'engagement de la direction en faveur de la sécurité et de la maîtrise des risques se mesure à divers éléments. Donc il y a l'existence d'une gestion des risques structurée, formalisée, incarnée dans un gestionnaire de risque, gestionnaire de risque lui-même rattaché au directeur. Voilà, c'était les critères qui dès lors qu'ils étaient cumulés, indiquaient que l'engagement de la direction était marqué. Et c'est seulement 12% des établissements qui ont pu cumuler ces critères. On peut éclairer ce constat avec deux autres questions qui étaient posées dans l'enquête, puisqu'il y avait une part de questions de ressenti, je dirais, plus que strictement factuelles. On a demandé aux établissements « Avez-vous essayé de faire de la gestion des risques une priorité ?» Et 74% d'entre eux ont répondu « Oui », mais c'est seulement 59% qui estiment avoir réussi à avancer et à véritablement concrétiser leurs actions en gestion des risques. Donc tout ça témoigne d'une discordance avec le résultat des 12% que nous avons vus. Enfin, au total, quelles que soient les interprétations que l'on peut faire, les résultats concrets sont encore faibles. Concernant les établissements, encore le gestionnaire de risque et son environnement. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Ce gestionnaire de risque, c'est une fonction majoritairement créée après 2004, après l'apparition de la circulaire. Dans les questions comportaient des choix, et parmi sur le profit de ce gestionnaire de risque, les citations qui sont revenues les plus souvent, c'était une personne dotée d'une expérience de l'encadrement ou d'une expérience des missions transversales. 1500 citations pour chacun à peu près. Et en revanche, la formation diplômante en gestion des risques a été retrouvée seulement 400 fois. On pourrait penser que les résultats sont positifs. En fait, dans la mesure où 90% d'échantillons affirment avoir un gestionnaire de risque, mais si on examine les ressources qui sont effectivement allouées pour assumer le rôle de gestionnaire, il ressort que dans la majorité des établissements, toutes touches confondues, l'équivalent temps plein qui est dédié à cette fonction est au mieux d'un mi-temps. Et puis concernant l'équipe et puis ses outils, les résultats sont très contrastés puisqu'on a un système de signalement qui est en place partout ou presque, mais la capacité d'analyse est présente dans un établissement sur deux, 52% ont une méthodologie d'analyse, ce qui pose question sur la manière dont le signalement est utilisé. Donc, au total, beaucoup des prescriptions de la circulaire sont en place. Ce sont des prescriptions de la circulaire et puis aussi de la Haute Autorité de Santé à travers les différentes versions de la certification. Donc, isolément, les prescriptions semblent appliquées, mais en fait, ça ne correspond pas, d'après les résultats que nous avons, à une démarche intégrée. Donc en conclusion pour les établissements de santé, on observe un hiatus entre le discours tenu, volonté d'en faire une priorité, inscription dans le projet d'établissement à 81%, mais au total seulement 26% cumulent les critères qui permettent de dire qu'ils ont effectivement mis en place une stratégie globale et intégrée de gestion des risques. Alors, les axes de progression pour les établissements sont tout naturellement tracés. Sortir de cette préoccupation de conformité réglementaire, si on peut dire, à une appropriation réelle des objectifs et des méthodes. Et puis, passer d'une affaire de spécialiste à l'affaire de tous. Et pour ça, il est impératif que la gestion des risques devienne une priorité du management. Au niveau régional, on observe, on avait posé une question à la fois aux ARH, 19 ont répondu, je le rappelle, aux DRAS, 15 ont répondu, mais deux réponses n'étaient pas exploitables, donc on a eu 13 réponses de DRAS et 11 réponses venant d'autres structures d'appui. Donc on avait demandé comment elles percevaient leur rôle auprès des établissements. Et on voit sur ce tableau que, en fait, les ARH, puisque c'est le seul tableau que j'ai indiqué ici, estiment que leur rôle pour 11 citations et 13 citations, soit un rôle d'accompagnement, soit un rôle d'appui, donc ça vient très nettement en tête du rôle stratégique, qui aurait pourtant été celui qu'on pensait le plus évident pour les ARH. Bon, concernant les DRAS et les structures d'appui, accompagnement, coordination pour les premières et puis pour les autres, accompagnement aussi, mais formation, expertise, là on est beaucoup plus en cohérence avec les missions des uns et des autres. Si l'on jette un œil sur le rôle des ARH tel qu'il est vu par les établissements pour le domaine de la gestion des risques, je précise bien, globalement, on voit que l'évaluation de l'action des ARH est plutôt négative puisque c'est 937 citations indiquent que les établissements estiment ne pas avoir de lien avec leur ARH en ce qui concerne la mise en place de leur gestion des risques. et que seulement 245 établissements sur 1575 évaluent positivement l'action de leur ARH sur ce thème. Donc un besoin de support qui n'est pas satisfait, qui ne l'était pas en tout cas en 2009. Et c'est un constat qui est corroboré aussi avec une autre question qui était posée sur l'intégration de la gestion des risques dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, le CEPOM. Pour les ARH, ce positionnement de la gestion des risques dans le CEPOM est acquis. En revanche, pour les établissements, c'est 50% d'entre eux qui estiment que qu'il y a des objectifs de gestion des risques consignés et suivis dans le CEPOM. Alors, la maturité de la démarche de gestion des risques dans les établissements de santé et à l'échelle régionale, telle qu'elle est vue par les ARH, les DRAS et les structures régionales. Donc, ce qui fait 19, 13 et 11 réponses. Bon, certaines réponses n'ont pas été exploitables parce qu'elles étaient discordantes pour une région. Les trois réponses étaient trop discordantes pour être exploitables. Ce que l'on voit, c'est que pour 14 régions, la démarche est majoritairement en cours de mise en œuvre et que pour 4 régions, elle est considérée comme majoritairement au stade de lancement. Et s'agissant de la mutualisation de la gestion des risques, qui était l'une des principales recommandations de la circulaire de 2004, elle serait effective dans 17% des établissements seulement. Ça, c'était dans le questionnaire auquel les établissements ont répondu. Et les instances régionales, de leur côté, estiment qu'il y a mutualisation effective dans 4 régions seulement sur les 26. Donc ça, ce sont deux résultats qui sont très cohérents entre eux. Voilà. Et puis 17 des 26 régions estimaient avoir mis à disposition des établissements de santé une structure clairement identifiée pour la gestion des risques, que la structure soit en ARH, en DRAS, ou que ses missions soient dévolues à une structure d'appui comme il en existe dans certaines régions, mais pas dans toutes.
Je vais vous demander de conclure.
Pardon ? Je
vais vous demander de conclure.
Oui. Eh bien, j'arrivais justement à la conclusion sur la dynamique régionale. Donc, jusqu'à la date d'aujourd'hui, mais nous mettons en place une réforme, donc là, c'est vraiment rétrospectif. Absence de stratégie régionale, et parce qu'il y a peu de... il n'y avait pas de programme de gestion des risques. Différence de perception entre les instances régionales et les établissements, des apports reconnus mais ils sont perfectibles et des attentes fortes de la part... Excusez-moi. J'en viens à la conclusion globale. Donc c'était des enseignements intéressants que cette étude, puisque il est clair que tout le monde a été sensibilisé, que de premiers outils sont en place. Ça c'est indéniable, c'est vérifiable dans tous les établissements. En revanche, il faut clarifier, renforcer les modes d'action au niveau régional, mettre en place à tous les niveaux, que ce soit national, régional ou local, de véritables programmes de gestion des risques qui sont suivis dans le temps, et surtout avoir un management mobilisé pour un meilleur ancrage de la fonction, et je dirais également promouvoir une culture de résultats, alors que la circulaire c'était une culture de moyens qui était mise en avant. Et bien la loi et les décrets d'application qui sont en place, je pense au décret CME, au décret indicateur qui est sorti, et puis bientôt un décret gestion des risques dans les établissements de santé qui sortira cet été, nous donne l'occasion de poursuivre ce travail.
Donc je vais vous présenter une étude sur 30 ans de restructuration des maternités. Cette étude est un bilan de l'offre existante en termes de maternité en France. Et l'étude va faire prochainement l'objet d'une publication dans un ouvrage DRESS qui s'intitule « Les établissements de santé, un panorama pour l'année 2007 ». Cette publication sera disponible prochainement sur le site internet du ministère. Alors, je vais d'abord vous présenter notre étude. Donc, il est important de noter pour cette étude, c'est que la source utilisée, ce n'est pas le PMSI-MCO, c'est la statistique annuelle des établissements de santé. C'est le seul recueil, la SAE, donc statistique annuelle des établissements de santé, est le seul recueil disponible depuis 30 ans. Et la SAE a une approche plus établissement offre de production. Alors un appariement a été réalisé avec le PMSI-MCO pour avoir sur des années plus récentes des informations sur les caractéristiques des accouchements. Et donc, comme vous le savez, le PMSI a une approche plus patientèle et du coup, ces deux sources étaient très complémentaires pour notre étude. On a travaillé sur un champ France métropolitaine, pour des questions de série longue, et les DOM vont faire l'objet d'un encadré dans notre publication qui,
En fait, ces départements d'outre-mer ont des caractéristiques spécifiques, non pas en termes d'offres hospitalières, mais plutôt en termes de caractéristiques démographiques. Et alors, qu'est-ce qu'une maternité ? Donc la question peut paraître un peu triviale, mais il nous paraissait important de le repréciser. Donc c'est un établissement géographique disposant d'une autorisation d'obstétrique. Et donc dans notre étude, on a travaillé hors centre périnatal de proximité. Alors le constat, c'est en 1975, il y avait 1369 maternités. En 2007, on en a 572. Donc ça fait en gros une baisse de 60%. Et enfin, surtout, en fait, cette baisse a été continue et massive tout au long de la période, mais alors que le niveau de la natalité est resté, lui, à un niveau assez élevé entre 1975 et 2007. Et en fait, cette baisse du nombre de maternités a davantage relevé d'une volonté des pouvoirs publics qui ont voulu restructurer le secteur de la naissance. Et en fait, plusieurs textes encadrent de manière assez stricte, ont encadré de manière assez stricte le fonctionnement des maternités depuis 30 ans. Dans le secteur privé, le premier texte est paru en 1972. Il s'agit du décret d'Ienec. Et ce décret, en fait, prévoyait des normes très, très détaillées pour les locaux et le plateau technique. 15 lits minimum étaient notamment requis pour obtenir l'autorisation d'exercice d'une maternité. Et donc, dans le secteur privé, de nombreuses petites cliniques obstétricales ont fermé. Ces cliniques étaient souvent tenues par des sages-femmes. Dans le secteur public, des normes identiques au décret d'Ienec ont été mises en œuvre, au travers notamment de deux circulaires, l'une de 1972 et l'autre de 1988. Et dans le secteur public, ce sont souvent les maternités des hôpitaux locaux qui ont fermé. Ces maternités étaient peu fréquentées et souvent placées sous la responsabilité de médecins généralistes. Alors ces décrets, en fait, s'inscrivaient dans le cadre plus général des plans périnatalité. Trois plans se sont succédés depuis les années 1970. Et donc ces plans avaient pour objectifs principaux, alors d'une part d'améliorer la sécurité à la naissance, et d'autre part d'organiser une meilleure adéquation entre le risque encouru par la mère et l'enfant, et le niveau d'équipement de la maternité. En 1998, de nouveaux décrets ont été publiés. Il s'agit des décrets périnatalité. Et ces décrets avaient pour objectif d'orienter les femmes vers les maternités disposant de l'environnement pédiatrique et maternel adapté à leur niveau de risque. Et donc, pour atteindre cet objectif, trois niveaux de spécialisation ont été développés. Et donc, un établissement EDI de niveau 1 s'il a un service d'obstétrique, un établissement EDI de niveau 2 si, sur le même site que son service d'obstétrique, il a un service de néonatologie, et un établissement EDI de niveau 3 s'il a sur le même site que son service d'obstétrique un service de néonatologie et un service de réanimation néonatale. Donc dans le cadre de ces décrets, les maternités ont également été encouragées à travailler en réseau. Alors, quels sont les impacts de ces mesures ? Donc, on l'a vu, c'est la fermeture de nombreuses maternités. Et ces fermetures ont principalement concerné, en fait, les petites maternités, c'est-à-dire celles qui réalisaient moins de 300 accouchements par an. En 1975, les maternités qui réalisaient moins de 300 accouchements par an étaient près de 500, et en 2007, elles sont plus que 23. Les fermetures ont également principalement concerné le secteur privé. Ce secteur n'est en effet plus majoritaire dans l'offre, puisqu'il représente 36% des maternités en 2007. Et les fermetures ont également principalement concerné les maternités de niveau 1. L'offre s'est réorientée vers les maternités de niveau 2. Et par conséquent, les lits des maternités de niveau 1 ne sont plus majoritaires non plus. Ils ne sont plus majoritaires. Ils représentent 37% des lits en 2007, alors qu'ils en représentaient plus de la moitié en 96. Mais pour autant, le nombre de maternités de niveau 1 reste majoritaire. Alors là, on vous a mis un tableau pour vous illustrer, en fait, ce qu'on vient de dire. Donc dans ce tableau, j'espère que vous voyez bien, je ne sais pas, on voit que le nombre de maternités a fortement baissé. On voit que le nombre de lits a également fortement baissé, mais dans une moindre mesure. On voit que le nombre d'accouchements, lui, est resté à un niveau relativement stable tout au long de la période. Et en fait, ces éléments nous permettent de déduire que le nombre moyen d'accouchements, lui, a plus que doublé au cours des 30 dernières années, puisqu'il est passé de 528 en 75 à 1357 en 2007. Parallèlement, la durée moyenne de séjour a également été divisée par deux, puisqu'elle est passée de 8 jours en 75 à 4,7 jours en 2007. Pourtant, la baisse de la durée moyenne de séjour n'est pas source d'insatisfaction. En effet, selon une enquête DRESS menée fin 2006 auprès des usagères de maternité, 94% des femmes se déclarent satisfaites ou plutôt satisfaites du déroulement de leur accouchement. Alors, parallèlement aux restructurations qui ont touché l'offre, il y a eu des évolutions en termes de prise en charge également. Et donc, tout d'abord, il y a eu une meilleure adéquation entre le risque encouru par la mère et l'enfant et le niveau de la maternité. Ainsi, par exemple, plus de 80% des naissances multiples sont prises en charge par les maternités de niveau 2 ou 3, alors que c'était le cas de 56% d'entre elles en 1996. Et de la même manière, les naissances d'enfants de petit poids, donc c'est inférieur à 2500 grammes, sont prises en charge également à plus de 80% dans les maternités de niveau 2 ou 3. Alors, la prise en charge de la douleur s'est également améliorée. Par exemple, pour les accouchements par voie basse, le taux de péridurale est passé de 68% fin 2001 à 73% en 2007. Et pour les accouchements par césarienne, le taux de rachianesthésie est en nette augmentation aussi. Il s'établit à 90% en 2007 et ça a permis d'avoir de moins en moins d'anesthésie générale. Par contre, il y a un point noir qui subsiste, c'est le taux de césarienne. En 2007, il s'établit à 20% en France, alors que l'OMS recommande plutôt un taux aux alentours de 15%. Et ce taux est en fait en nette augmentation, puisqu'il était de 6% en 72 et de 14% en 91. Et ce qui est frappant, c'est de voir que ce taux est très variable d'un établissement à l'autre, puisqu'il s'échelonne de 10% à 43% selon les établissements, et que ce n'est pas lié à la complexité des accouchements. Alors, notre étude comprend également une analyse régionale. Donc là, on vous a mis une carte pour vous donner une idée, pour vous donner un aperçu rapide. La carte présente le nombre de maternités par région et le nombre de lits pour 1000 accouchements par région. Et d'après notre analyse régionale, certaines caractéristiques sont assez homogènes, quelle que soit la région considérée. C'est par exemple la durée moyenne de séjour, le nombre de naissances multiples, ou le nombre de naissances d'enfants de petit poids. Et par contre, il y a des caractéristiques qui sont assez hétérogènes selon la région considérée. C'est par exemple le taux de césarienne, l'offre des maternités par secteur, ou là, comme vous voyez sur la carte, le nombre de lits pour 1000 accouchements. Alors, en conclusion de notre étude, deux approfondissements pourraient être menés. Il y a d'abord sur le taux de césarienne, on voudrait comprendre pourquoi ce taux augmente depuis 30 ans. Et parallèlement à ça, il y a aussi tout ce qui porte sur l'analyse régionale. Notamment, on pourrait creuser sur l'adéquation entre l'offre et la demande locale. Et ça pourrait se faire grâce à une analyse des distances d'accès pertinentes. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Donc, bonjour à tous. Je vais maintenant vous présenter une typologie des centres hospitaliers universitaires. Donc là, cette fois-ci, il s'agit du PMSI et MCO comme outil d'analyse de données. Donc, pour faire le lien avec la partie précédente, ce n'est pas vraiment l'activité d'obstétrique des centres hospitaliers universitaires qui va nous intéresser ici, mais la répartition de l'activité entre activités dites de pointe, donc je définirai ce type d'activité par la suite, et activités dites de proximité. Donc, avant toute chose, quelques données de cadrage sur les CHU. Donc, en 2007, on compte en France métropolitaine 27 centres hospitaliers universitaires. Ces 27 CHU, donc définis par l'ordonnance du 30 décembre 1958, que vous connaissez certainement sous le nom de réforme de Bray, ont pour finalité d'attirer les meilleurs praticiens dans le secteur public pour y exercer conjointement trois missions. Donc, la mission d'exercer des soins avec une égalité d'accès pour tous, la mission de formation et d'enseignement, et la mission de recherche pour contribuer aux avancées médicales et donc à l'amélioration des soins. En matière d'offre de soins, les CHU occupent une place prépondérante dans le paysage hospitalier et parmi les quelques 1300 établissements qui ont une activité de court séjour, puisqu'ils représentent donc à eux seuls un quart des capacités d'hospitalisation et ont accueilli en 2007 environ 3,4 millions de séjours, donc c'est-à-dire un peu plus d'un cinquième des séjours. Alors cette part peut être beaucoup plus importante pour certaines pathologies. Elle atteint par exemple 72% pour les prises en charge des maladies liées au VIH ou encore 58% pour les traumatismes multiples ou complexes graves. La réforme de Bray visait à constituer des centres d'excellence médicale sur l'ensemble du territoire national et on trouve donc en général un CHU par région, donc comme en témoigne la carte à l'écran. Seule la Corse n'accueille aucun CHU et 5 régions en comptent plus d'un. Donc il s'agit de la Bretagne, des Pays de la Loire, de la région PACA, du Languedoc-Roussillon et de Rhône-Alpes. Les disques à l'écran ont une surface proportionnelle à l'activité du CHU et la petite portion en violet, oui ça s'affiche bien en violet, représente la part des séjours réalisés par des non-résidents de la région. En première approche, les CHU sont considérés comme des établissements très hétérogènes et donc il y apparaît assez vain en première approche de les comparer. Effectivement, la PHP avec ses 14 000 lits et places fait figure de mammouth hospitalier en comparaison avec le CHU de Nîmes et ses 800 lits et places. La PHP est ceci dit composée de plusieurs groupements universitaires et chaque GHU est comparable, lui, en termes de taille, aux autres assistances publiques et notamment aux hospices civils de Lyon. Donc on peut voir la PHP comme un ensemble mais également considérer les groupements pris séparément. En termes de poids dans l'offre environnante, là encore les résultats sont très contrastés selon les CHU et sont fonction de la taille du CHU, donc assez logiquement, mais également de l'offre environnante. Et la part du CHU dans l'activité MCO 100 km alentour, mesurée en nombre de séjours, varie ainsi de 5,7% pour le CHU d'Amiens à 31,8% pour le CHU de Bordeaux. La part de la PHP est telle de 28%. Enfin, en termes de patientèle et notamment de répartition par âge, les différences entre CHU peuvent être substantielles. Les patients du CHU de Nîmes sont en moyenne de 10 ans plus âgés que ceux du CHU de Lille. Tout ça, donc, ce sont des données 2007. Donc, ces quelques statistiques descriptives que vous aviez pour partie peut-être déjà en tête laissent à penser que les CHU doivent être considérés comme autant d'entités individuelles distinctes. Cette étude montre que finalement on peut aller au-delà de cette apparente hétérogénéité et constituer des groupes homogènes de CHU. Donc pour construire la typologie des CHU, fort des enseignements des statistiques descriptives, on retient 8 indicateurs. Donc 3 indicateurs qu'on peut qualifier de type offre. Donc tout d'abord, la part du CHU dans l'activité MCO située dans un rayon de 100 km. Ensuite, le nombre d'établissements d'au moins 300 lits et places, plus les centres de lutte contre le cancer dans ce même périmètre. Et enfin, le nombre d'activités soumises à autorisation. Donc on se limite en fait à 7 autorisations particulièrement discriminantes, 5 relatives aux transplantations d'organes, auxquelles on ajoute la neurochirurgie et le traitement des grands brûlés. On retient également 5 indicateurs de type demande, donc le poids des pathologies bénignes, approximé par le nombre de passages aux urgences ne débouchant pas sur une hospitalisation, le poids de la gériatrie, c'est-à-dire le poids des séjours des patients de 80 ans ou plus. Donc ces deux indicateurs sont très fortement liés à l'offre environnante, mais hors pour séjour cette fois-ci, puisqu'on a d'un côté l'offre ambulatoire en ville et de l'autre côté l'offre médico-sociale en soins pour personnes âgées, par exemple. Les 3 derniers indicateurs sont un indicateur démographique, la part des 60 ans ou plus dans le département, un indicateur macroéconomique, le PIB moyen par département de la région, et enfin un indicateur d'attractivité, le taux d'entrée régional, c'est-à-dire la part des séjours hospitalisés dans une région réalisés par des non-résidents de la région. À partir de ces indicateurs, on réalise une classification ascendante hiérarchique. Donc à l'étape initiale, chacun des 27 CHU constitue une classe, à lui seul donc. On calcule ensuite une distance entre classes grâce aux variables quantitatives définies précédemment. Les 2 classes les plus proches sont regroupées. On passe ainsi de 27 à 26 classes. On recalcule des distances entre ces 26 classes. Et on poursuit dans la construction de l'arborescence jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule et unique grosse classe. L'arborescence obtenue suggère une partition en 4 groupes homogènes de CHU. Donc le premier groupe contient les CHU de Besançon, Brest, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Limoges, Nice, Poitiers, Tours et Strasbourg. Et ces 10 CHU apparaissent comme des établissements moyens, en ce sens que les indicateurs calculés sur ce groupe sont proches des moyennes tous CHU confondus. À 2 exceptions toutefois, ils se situent dans des zones où coexistent peu de gros établissements, donc c'est-à-dire où il y a relativement peu d'offres, et où la part des 60 ans est plus élevée qu'ailleurs. Donc en résumé, on pourra dire que ce sont des CHU situés dans des zones vieillissantes avec une faible offre hospitalière environnante. Le deuxième groupe est composé des CHU de Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Rennes et Toulouse. Donc on retrouve à nouveau 10 CHU dans ce groupe 2. Et il se caractérise par un nombre d'activités de pointe autorisées plus élevées qu'ailleurs et un poids plus faible accordé à la gériatrie. Donc en ce sens, ils apparaissent comme des CHU de pointe situés dans des zones dynamiques du point de vue démographique. Le groupe 3, lui, contient seulement 6 CHU, donc les CHU d'Amiens, Angers, Nîmes, Reims, Rouen et Saint-Étienne. Et il est en quelque sorte l'opposé du deuxième groupe. Donc on a affaire à des CHU de proximité situés dans des zones où l'offre hospitalière est abondante. Enfin, la PHP et ses 4 groupements hospitaliers universitaires constituent à elles seules le quatrième groupe. Donc une fois cette typologie obtenue, pour juger de sa pertinence, on a construit 2 variables illustratives correspondant d'une part au poids des activités dites U et d'autre part au poids des activités dites CH dans l'activité totale du CHU. Puisqu'en effet, c'est bien ce U qui distingue, au moins dans la dénomination, les CHU des CH. Donc on voulait regarder ce qu'il en était. Donc les activités spécifiques U définies dans cette étude sont celles qui sont réalisées à plus de 50% dans les CHU. Elles sont ainsi proches des activités préférentielles CHU définies dans le rapport du Dr Mendelssohn de la TIH. A l'inverse, les activités de proximité CH sont-elles réalisées à plus de 50% dans les CH. Donc il est à noter que les poids U et CH ainsi définis ne sont pas à 1. Donc l'affichage des CHU sur des cadrans séparés par des axes correspondant aux moyennes des parts U et CH sur l'ensemble des CHU, donc vous avez le graphique à l'écran, permet de constater la corrélation négative évidente entre activités de proximité et activités spécifiques. Par ailleurs, les 4 groupes de CHU, donc matérialisés par des couleurs différentes à l'écran, apparaissent de façon assez distincte. Donc en bas à droite, donc en rouge, on retrouve les CHU de pointe, avec une part U plus élevée que la moyenne et une part CH plus faible que la moyenne. On trouve les CHU du groupe 3 plutôt en haut à gauche, et ceux du groupe 1 plutôt en bas à gauche. Les 4 groupements hospitaliers universitaires donc de la PHP sont plutôt à droite, et on a le groupement hospitalier sud qui, lui, apparaît un petit peu à l'écart, puisqu'il est en haut à droite avec une part U plus élevée que la moyenne et une part CH aussi légèrement plus élevée que la moyenne. Donc ainsi, on a mis en évidence 4 groupes de CHU, plus homogènes entre eux que ce que l'apparente hétérogénéité de ces 27 établissements vraiment à part dans le paysage hospitalier pouvait laisser supposer.